C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Bien, notre ami collaborateur, Fabrice de Pierrebourg, bonjour.
Bonjour, Paul.
J'ai bien des questions de base à te poser. Pourquoi d'abord t'es allé à Kaboul? Quelle était l'idée de retourner après, évidemment, que les talibans ont pris le pouvoir?
Ben, je voulais voir justement l'état de la situation dans ce pays après cette prise de pouvoir rapide, mais pas étonnante, des talibans. Puis je voulais voir c'était quoi la vie au quotidien en pays taliban finalement. J'étais pas allé dans les années 80, fin des années 90 quand ils étaient au pouvoir, mais on se souvient encore de la brutalité de ce régime. Et j'étais intéressé de voir comment ils géraient au quotidien ce pays-là, ce qu'ils y arrivaient, puis surtout l'impact, comment vivait la population maintenant après des semaines de changement de régime, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a frappé quand t'as débarqué et t'as pu te promener un peu à l'intérieur de Kaboul?
Bah déjà, c'est difficile d'y entrer. Il faut trouver un avion pour y aller. On était 15 dans un Boeing 737, donc la distance
15.
Donc là, il y a pas beaucoup de volontaires, donc beaucoup d'Afghans. La distanciation sociale était
facile.
Était très facile. Et t'arrives à l'aéroport. L'aéroport est quasiment fantomatique. Puis tout de suite, j'ai eu les images en tête de ce qu'on a vu, quoi. À mi-août jusqu'à fin août, c'est milliers de personnes qui essayaient de fuir le régime. C'est gens qui tombaient d'un avion. Toutes ces scènes épouvantables. Et là, c'était comme désert quasiment. Il y a un gars qui a regardé mon passeport, il essayait de voir si mon visa c'était un vrai visa. Et puis on sort, tout de suite on voit, il y a plus de forces de sécurité. Avant, à Kaboul, c'était beaucoup des forces de sécurité étrangères, donc beaucoup d'Américains, de soldats de la coalition, des compagnies de sécurité privées, police et militaires afghans. Et là, ce sont des talibans partout, dans l'aéroport, à l'extérieur, et ils contrôlent. On voit qu'effectivement, au propre comme au figuré, ils contrôlent le pays.
Est-ce qu'ils sont organisés, structurés? Ils nous donnent l'impression de mercenaires dans des jeeps qui se déplacent au gré de leurs intuitions.
Non, quand même, il y a une organisation, c'est-à-dire oui. qu'il y a deux types de talibans. Il y a les talibans, les fantassins, qui font les points de contrôle, qui sont devant les ministères. Ça aussi, ça m'a surpris. Les ministères, les ambassades, la plupart sont désertes là. C'est plein de talibans qui sont assis sur des fauteuils de bureau, un peu négligemment. Ils ont tous leur AK-47 ou les plus chanceux ont des M16 américains qu'ils ont récupérés auprès des forces sécuritaires afghanes qu'on fuit devant eux. Et ils sont là, un peu en dilettante, mais il y a une force talibane qui est très puissante, qui est vraiment leur force spéciale. Et ils sont habillés vraiment en tenue. Alors que les premiers, là, c'est un peu, ils ont des tenues un peu hétéroclites, là. Ils ont des pantalons un peu de toutes les couleurs, de l'équipement qu'ils ont récupéré un peu partout. Ils ont une force spéciale qui est très professionnalisée. Pas du tout avec les cheveux longs, les barbes taillées, et ils ont des lunettes de visée nocturne, etc. Et tout. Puis on voit, eux contrôlent vraiment l'aéroport, puis contrôlent les points sensibles. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils ont finalement, ils se sont substitués à l'ancien pouvoir. Tu vas dans les postes de police, maintenant ce sont des talibans qui sont là. Ils ont vraiment, ils occupent le terrain. Et c'est sûr que j'ai l'impression que pour l'instant, de toute façon, c'est un pays qui est en complète déconfiture. Les gens sont en état de survie, donc c'est difficile de savoir jusqu'où ils gèrent le pays. Mais à première vue, ils sont là, ils sont présents, ils contrôlent. Dès que t'arrives, faut une autorisation des talibans pour travailler. Donc je suis allé dans un ministère, il y a quasiment plus personne, plus de femmes. Les femmes sont complètement effacées du paysage, je dirais, du pouvoir et administratif. Et ils te font une autorisation, puis après ça, tu peux commencer à travailler, quoi.
Mais est-ce que les femmes peuvent circuler? Est-ce qu'elles doivent être accompagnées? Ça se passe de quelle façon?
Non. Et ça c'est un peu la question qu'on se pose. C'est sûr, à Kaboul, c'est comme ça. En région, c'est un peu différent. En région, à la campagne, c'est un peu différent. Mais j'étais assez surpris. C'est-à-dire que oui, elles n'ont plus accès, malheureusement,
au travail.
Au travail, en tout cas, dans les postes de l'administration, de la fonction publique ou de la police. Il n'y a plus de femmes policières comme il y avait avant. Probablement, il n'y a plus de femmes juges. Il n'y a plus de femmes à des postes importants comme ça. Mais dans la rue, se baladent. Elles sont toutes voilées. Mais disons qu'il y a un certain assouplissement par rapport à la doctrine originelle. C'est-à-dire que les talibans tolèrent qu'elles aient des voiles de couleur, qui ne recouvrent pas complètement les cheveux. Donc c'est plus, pour l'instant, c'est redevenu un accessoire, je dirais entre guillemets, de mode. Mais moi, je parlais à des jeunes femmes qui me disaient, dès qu'elles ont entendu à mi-août que les talibans étaient prêts de rentrer dans Kaboul, elles sont précipitées pour aller acheter des niqabs ou des burqas. Puis finalement, elles me disent, on les a mis une journée, après on a arrêté. Alors, le tout est de savoir combien de temps ça va durer, mais elles se promènent librement. Mais c'est sûr qu'elles n'ont plus, il y avait des femmes qui avaient des cafés, qui avaient des petites entreprises et tout, qui ont fermé, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Les visages des femmes, souvent, sont effacés. Il y a des salons de beauté, des salons de coiffure, il y avait vraiment des photos publicitaires de femmes. Si elles n'étaient pas voilées, elles sont toutes ils ont passé de la peinture dessus ou c'est les propriétaires qui ont fait ça à titre, on va dire, préventif. Donc, les visages des femmes sont effacés. Il y avait des grandes fresques dans Kaboul aussi avant, parce que c'est plein de murs en béton énormes là, qui cernaient les ambassades, dont l'ambassade du Canada, les ministères, des murs anti-explosion. Il y avait plein d'artistes qui, au fil des années, avaient peint des fresques. C'était souvent des femmes à la gloire de la liberté, avec des slogans féministes, etc. Tout ça, ça a été effacé, quoi. Donc,
Et les gens vont se dire, mais comment t'as fait pour te promener dans Kaboul? Ça prend quoi, une forme d'entente avec les talibans? Faut que tu te présentes, je suis journaliste, donc laissez-moi me promener. On limite tes déplacements, ça se passe comment?
Ben, ça s'est bien passé, puis je vais être un peu provocateur, mais c'est plus facile de travailler avec les talibans que du temps de la coalition. Ou avant, le temps de la coalition, si on disait je veux rentrer dans une base, je veux faire des photos, n'importe quoi, ben non, il faut 50 000 autorisations. Là, j'avais mon autorisation de départ, donc j'ai une autorisation au nom d'une nouvelle émirat islamique d'Afghanistan. Avec ça, j'étais capable de travailler et tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Rendez-vous avec un tel, je l'ai eu. Je veux patrouiller avec des talibans, je l'ai eu. Je vais assister dans les postes de police. Des fois, ils font ils gèrent un peu les plaintes, à la fois délits puis problèmes matrimoniaux. Là, j'ai pu assister à ça, faire des photos.
Donne-moi un exemple de ça, les problèmes matrimoniaux.
Bah, une femme qui, par exemple, perd son mari et son beau-père et son beau-frère récupèrent la maison et les enfants.
Et elle?
Elle n'a rien, donc elle s'en vient plaider sa cause, mais on lui dit, bon, on va s'occuper, on verra, merci madame, suivant, etc. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est le même bonhomme qui gère les vols, les cambriolages et les problèmes matrimoniaux, quoi, dans un bureau de police, avec des gars, ils sont tout le temps avec des armes, quoi. C'est le festival de la AK-47 et du M16, ils sont toujours avec leurs armes, ils vont au restaurant avec leurs armes, ils sont tout le temps armés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une certaine curiosité. Moi, j'étais curieux de savoir qui ils étaient, évidemment. Mais eux étaient curieux de savoir pourquoi j'étais venu. Ils m'ont posé la même question que toi.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Oui, il y en a même un qui m'a dit, est-ce que vous aimez les talibans?
C'est un peu gênant de répondre non.
Bah, j'ai trouvé une
réponse diplomatique.
J'ai trouvé une réponse diplomatique, mais mais ils étaient non, c'était assez facile. Et ils étaient très curieux. Et la première question qu'ils me posaient, c'est êtes-vous américain? Ah non, tu leur dis non, je suis pas américain. Ça, alors là, ça va. Même si moi, je suis à moitié canadien, à moitié français, ces deux pays-là ont aussi mené la guerre contre les talibans. Pour eux, c'est accessoire, quoi. Si t'es pas américain, là, la discussion peut commencer, quoi.
Alors, Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Il rentre d'Afghanistan. Beaucoup de questions sur la vie au quotidien. Est-ce qu'il y a une activité économique? Est-ce qu'il y a un marché d'ouvert? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent? Comment ça se passe?
Ça se passe pas très bien. C'est un pays qui est en état, ce que j'ai dit tout à l'heure, de survie à la fois économique et humanitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent. Parce que les États-Unis ont décidé, en punition, de geler les fonds de la Banque centrale afghane qui sont détenus aux États-Unis. C'est à peu près 12 milliards de dollars canadiens. Le seul petit problème, c'est que cet argent-là, c'est pas l'argent des talibans, c'est l'argent de la population. Alors ça donne que t'as des files ininterrompues devant les banques quasiment jour et nuit et les gens ne peuvent pas retirer plus de 200 dollars par semaine et ça c'est à condition que la banque ait ces 200 dollars parce que elles-mêmes ne sont pas approvisionnées. Alors ce qui est assez absurde c'est qu'il y a beaucoup de choses à vendre dans les rues. Les marchés sont pleins. Moi quand je suis allé c'était plein de fruits, de légumes mais les gens n'ont pas l'argent pour payer. Conclusion, puis ça c'est les chiffres de l'ONU et du Programme alimentaire mondial, ils disent qu'il y a à peu près 23 millions d'habitants, c'est à peu près un peu plus de la moitié de l'Afghanistan qui est à risque de famine.
Surtout qu'on entre dans une période quand même de froid, d'hiver.
Il commence à neiger, je regardais ce matin à Kaboul, il neigeait. Moi quand j'étais, il commençait à faire froid dans les montagnes, c'était déjà froid. Donc les gens n'ont même plus d'argent pour acheter de quoi se chauffer, ils n'ont plus d'argent de quoi s'acheter à manger et il y a littéralement des gens qui meurent de faim. Moi j'ai vu des enfants qui mouraient de faim. C'est pas une image là.
Mouraient de faim, qui étaient morts de faim.
Qui étaient en train de qui étaient squelettiques et qui parce que les mères n'ont plus de quoi les nourrir, n'ont plus de quoi acheter à manger. Elles-mêmes, elles mangent mal, donc elles peuvent plus les allaiter, et ainsi de suite. Et il faut payer ces médicaments là-bas. Donc, si t'as pas d'argent, tu vas pas à l'hôpital avec ton enfant et il meurt. Tout ça parce que le gouvernement américain a décrété encore une fois qu'en faisant pression économique, peut-être que le peuple un jour va se révolter contre le pouvoir et puis que. Mais concrètement, tous les jours, là, c'est la population afghane qui crève littéralement de faim, quoi. Et c'est dramatique, il n'y a plus d'emploi. En plus, la plupart des femmes sont chez elles, ne travaillent pas. Donc, c'est vraiment tous les ingrédients d'une catastrophe de grande ampleur dans un pays qui était déjà dans un sale état, quoi.
Et est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens, t'as l'impression, qui cherchent à quitter l'Afghanistan et à se pousser ailleurs, là?
Oui, il y a des fils. Ben là, ils émettaient plus de nouveaux passeports. Mais là, j'étais avec quelqu'un l'autre fois qui était tout content. Il m'a montré, il a eu son passeport. Donc, il commence à émettre des passeports. Sauf que pour sortir, c'est difficile. Il y a très peu de vols. Faut savoir que même le billet d'avion, on paye plus rien en carte de crédit. Je sais pas si c'est lié à l'embargo américain là, mais aucun système de carte de crédit fonctionne là-bas. Tu veux prendre un avion, faut aller le payer cash, quasiment à la porte de l'avion, quoi, pour le prendre. Et il y a très peu de vols. Très peu de vols. L'aéroport est dans un sale état. J'imagine qu'il manque depuis que les Américains sont partis, qui assuraient depuis des années même le contrôle aérien, etc. Et tout. Il y a plus rien. Donc ça prend des pilotes afghans qui sont habitués à se poser là-bas en plein jour, si possible, etc. Donc tout est compliqué pour sortir, mais il y a très peu de gens qui peuvent sortir. Je sais qu'il y a eu des vols d'évacuation encore, il y en a eu un. La France en a fait un fin octobre avec le Qatar, et qui a des bons rapports avec l'Afghanistan. Donc il y a des pays qui arrivent encore à faire sortir des gens de là-bas. Mais des vols, moi dans le vol de retour, le vol n'était pas plein, quoi. Dans le vol qui allait au Pakistan, parce qu'il faut quand même un passeport, puis où est-ce que tu vas ? Puis il faut de l'argent. Si les gens ne peuvent pas retirer leur argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ah non, c'est une situation vraiment dramatique.
Mais est-ce que beaucoup de gens, j'avais déjà interviewé un reporter qui avait couvert la première mouture des talibans, et il me parlait d'un espèce de régime violent, préhistorique, avec des patrouilles qui peuvent intercepter les gens sur les rues pour n'importe quel motif. Est-ce que tu sens encore ce type de régime-là, ou s'il y a, comme ils l'ont prétendu, une forme d'assouplissement?
Ben, pour l'instant, il y a une forme d'assouplissement, mais uniquement, je pense, qui est
théorique,
puis qui est dans les grandes villes, où la population est très jeune et n'est plus la même. Mais il n'y a pas longtemps encore, je pense qu'il y a 2-3 jours, l'ONU, puis un autre organisme de défense des droits humains, a dit qu'il y avait une centaine d'exécutions extrajudiciaires d'anciens membres de l'armée, des forces de sécurité afghanes, par les talibans. C'est-à-dire des kidnappings, alors qu'ils avaient promis l'amnistie aux membres de l'ancien gouvernement. Il y aurait apparemment des enlèvements, des exécutions sommaires dans les provinces autour de Kaboul. Mais ça, c'est difficile à prouver, mais c'est évident qu'ils ne sont pas tous, ils n'ont pas tous changé. Mais moi, j'ai vu beaucoup de talibans qui avaient été à l'université, éduqués, etc. et tout. Mais en même temps, leur discours ne change pas. Ils disent, quand je leur demande pourquoi vous avez rejoint les talibans, puis moi, je voulais l'établissement d'un régime islamique authentique et chasser les étrangers de notre sol. Donc là, le discours est toujours le même, quoi.
Je disais que tu revenais d'Afghanistan. Parlons de l'expérience de voyager en ce temps de COVID. Je disais aux auditeurs pour te présenter que tu as été testé 4 fois.
Ah oui. Ah oui.
Peux-tu nous faire un peu le parcours du combattant pour les tests?
Ben, c'est sûr que c'était compliqué parce que suivant les pays où, moi, j'avais 4 escales, 4 pays pour revenir ici. Puis j'avais 4 billets d'avion différents parce que si jamais j'arrivais pas à sortir d'Afghanistan, pour faire une histoire courte, je commence à avoir l'habitude, là. Je voulais pas que je perde tous mes billets. Donc, je m'étais fait des sas à chaque fois dans chaque pays. Donc, il a fallu que je calcule entre les 24 heures, les 48 heures, les tests PCR, les tests antigéniques. Donc, j'ai fait un premier test à Kaboul, PCR. Pour aller au Pakistan, à la descente d'avion au Pakistan, ils nous ont fait un test rapide antigénique. Ça a été super vite. Apparemment, il y a des pays là qu'on dit peut-être pas très évolués, mais au niveau organisation, ils sont super bons. Je suis sorti de l'avion, test rapide, 10 minutes t'attends, ok, c'était bon. Pour aller en France, je me suis arrêté en Turquie. Là, j'ai refait un test antigénique à l'aéroport, 10 minutes, $12. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai été dispensé. Pourtant, je venais de pays rouge, parce que là-bas, en France, ça dépend du pays d'où tu viens. Il y a vert, orange, rouge. Le Canada, c'est vert. Pour l'instant, si t'es vacciné, t'as rien à faire pour entrer en France. Mais quand je suis arrivé à Paris, il y avait file vacciné, file non vacciné à Roissy. Donc moi, je suis allé chez les vaccinés. Les non vaccinés allaient peut-être au mur de la honte.
Mais il faut pas être doublement vacciné pour voyager. Ça dépend des pays.
Ça dépend des pays, c'est ça. Mais moi, j'avais tout. Puis quand je suis arrivé à Paris, le test était aléatoire. Puis ils ont vu, pareil, j'ai dit, écoutez, le dernier, j'ai fait il y a 3 heures. Là, le personnel de santé m'a dit, je pense qu'on va vous en épargner un. Alors, c'est une gestion de risque. Ils m'ont dit, si on se met à tester tout le monde, on paralyse l'aéroport. Puis après, j'en ai fait un à Paris pour arriver au Canada. Normal, un test PCR. J'ai fait la veille. Puis quand je suis arrivé à l'aéroport, donc ce test aléatoire, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des nouveaux postes partout. Puis là, le douanier, pareil, il me dit, vous avez été testé? J'ai dit, 4 fois. 4 fois 4 jours. Je pense qu'au niveau du risque, là, de la gestion de risque, il m'a dit oui, en effet. Puis là, je suis pas allé au test aléatoire. Mais ça, honnêtement, ça s'est bien passé. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis doublement vacciné. J'ai l'habitude maintenant de gérer les tests. Je me suis acheté un test que je peux emporter avec moi, là, qui est homologué par Santé Canada au cas où. Puis je trouve ça un peu spécial qu'on reparle de quarantaine pour des gens double ou triplement vaccinés avec des tests et tout, parce que je me dis finalement, moi, quand on m'a croisé le lendemain là, je pesais peut-être moins de risques que quelqu'un qui sort pas d'ici, qui est asymptomatique, puis qui est peut-être en train de contaminer tout son entourage.
Ouais, mais là...
c'est un autre débat.
Mais imagine si t'étais revenu puis qu'il y avait eu une quarantaine obligatoire.
Ah, ça, j'aurais été fou.
Je pense que ça aurait pas été
non,
agréable.
Non, je suis pas fait pour rester dans un appartement.
Prochaine destination?
Je resterais peut-être d'aller au procès des attentats de Paris en janvier.
Fabrice, merci beaucoup d'être venu ce matin.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On a eu l'occasion d'échanger à quelques reprises avec Dr. Denis-Claude Roy, qui est hématologue, chercheur et directeur scientifique et médical du Centre d'excellence en thérapie cellulaire. On parle bien sûr de Maisonneuve-Rosemont. Et ce matin, on l'a invité parce qu'il reçoit le prix, ce qu'on appelle un prix de reconnaissance de carrière, Persillier-Lachapelle 2020. Dr. Roy, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Ben d'abord, bravo pour ce prix quand même. C'est un prix donné par le réseau, mais qui vient comme, souligner l'excellence de votre carrière et de votre travail.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. Il est clair que c'est un prix prestigieux, que je suis extrêmement fier. Là. C'est le prix le plus important du ministère de la Santé, donné par le ministre lui-même. Et puis, c'est clair que ça vient, je pense, étoffer puis souligner les efforts qu'on a faits depuis de nombreuses années. Là.
Je veux qu'on en parle de ces efforts-là. Je regardais votre feuille de route, on s'est croisé à quelques reprises. C'est impressionnant vrai. Depuis le début. Là, puis peut-être à resituer pour les auditeurs ce que ça veut dire la recherche cellulaire, puis ce que ça veut dire là, d'explorer le domaine des cellules souches.
C'est intéressant parce que la thérapie cellulaire, ça a commencé. Moi, j'ai fait ma formation avant les années 90. Après un cours hématologie et médecine à l'Université de Montréal, je suis allé pendant 2 ans et demi à Boston, à Harvard, au Dana-Farber Cancer Institute, où j'ai appris ce que c'était que la thérapie cellulaire. On n'appelait pas ça la thérapie cellulaire dans ce temps-là. Là. C'était de la manipulation de cellules, puis il n'y avait pas vraiment encore de nom. Mais je me suis dit, ça, c'est quelque chose d'extrêmement porteur, puis c'est quelque chose qu'il faut ramener au Québec. Alors, quand je suis revenu au Québec, j'ai développé mon propre laboratoire de recherche en thérapie cellulaire, en manipulation de cellules, puis qui s'appliquait vraiment à la greffe de cellules souches. Alors, à ce moment-là, l'idée, c'était de traiter des greffons de patients qui avaient une leucémie, d'enlever les cellules leucémiques avec des approches d'anticorps et de toxines pour tuer les mauvaises cellules puis redonner aux patients des greffons qui étaient dénués de cellules cancéreuses. Mais pour faire ça, il fallait un laboratoire. Alors, j'ai ouvert le premier laboratoire de thérapie cellulaire en 1990, qui était le premier laboratoire au Canada avec la capacité de faire ça. Et on a développé plusieurs protocoles. Puis d'ailleurs, je peux souligner que j'ai des patients que j'ai greffés dans 90-91 qui m'ont contacté récemment pour me dire, écoutez, je suis encore en vie. Puis,
leur survie passait par ce genre d'approche médicale.
Exactement. Tu penses qu'il est clair qu'on a aidé, on a amélioré le processus de greffe en faisant des avancées comme celle-là. Et puis, ça nous a amené, il y a eu beaucoup d'efforts. Il faut comprendre que tout ce qui, ça aboutit pas toujours en clinique, mais on fait, c'est-à-dire que ça aboutit en clinique, mais ça aboutit pas toujours au niveau commercial, parce qu'il y a différents incitatifs, dont le coût, dont l'énergie, mais à chaque fois, on apprend quelque chose. À chaque fois, on développe et on met sur place, en place des choses qui font que ça va être pérenne. Il faut comprendre que la recherche, là, puis le corps humain, c'est assez complexe. On construit un édifice. On construit un édifice brique par brique. Et puis, chaque chercheur apporte son niveau. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre la direction du centre de recherche en 2006, la direction que j'ai assumée jusqu'à l'année dernière, où j'ai triplé le nombre de chercheurs. On a triplé le nombre d'espaces. On a quadruplé le nombre de subventions. Des gens qui sont extrêmement dévoués, qui travaillent fort.
Puis la recherche, ça veut dire aussi quand, pour le patient, c'est la proximité de découverte. Quand vous trouvez quelque chose à Montréal, quand vous faites des travaux, que vous faites des expériences avec des traitements innovateurs et qui j'allais dire, promettent pour l'avenir, ben les Montréalais en bénéficient, là. Les citoyens du Québec.
Exactement. Si on a, je suis content que vous le souligniez, M. Arcand, parce que quand on n'a pas la recherche, on n'est pas à l'avant-scène des avancées. Donc, on est toujours à la traîne. Et ça, on peut pas se permettre comme société d'être à la traîne. Il faut qu'on soit à l'avant-scène. Puis en thérapie cellulaire, on est vraiment à l'avant-scène de ce domaine-là. D'ailleurs, on a créé, j'étais un des trois membres fondateurs du réseau T-Cell, de thérapie cellulaire, tissulaire et génique. Et qui regroupe maintenant près de 200 chercheurs à travers le Québec, qui travaillent tous sur toutes des maladies différentes pour lesquelles l'utilisation de cellules est utilisée pour guérir différentes maladies. Personnellement, je m'intéresse beaucoup au cancer et donc à faire des cellules anti-cancer, par exemple. Mais il y a des gens de partout à travers le Québec qui développent l'utilisation de cellules pour le cerveau, pour guérir des maladies oculaires, pour guérir les reins, pour guérir le foie et autres. Donc, et ça, c'est extrêmement porteur.
Mais c'est incroyable. Je pense que la semaine dernière, je parlais avec un chercheur qui trouvait des traitements plus ciblés avec des séquences génétiques, des traitements aussi plus pointus, plus adaptés à la personne, donc plutôt qu'un traitement général pour l'ensemble de gens qui souffrent d'une telle maladie. Avez-vous l'impression qu'on s'en va de plus en plus vers ça, une médecine là assez ciblée?
Alors, vous avez tout à fait raison, là. On s'en va vers une médecine personnalisée, à la fois pour les médicaments standards, ouais, de bien identifier quels sont les bons patients, les bons médicaments pour les bons patients, puis on sait qu'il y a des médicaments, entre autres de la chimiothérapie, qui peut être très néfaste pour certains types d'individus qui n'ont pas les mêmes gènes que d'autres. Et puis, en thérapie cellulaire, bien, ce qu'on parle, c'est de vraiment une médecine personnalisée, là. Quand on fait une greffe de cellules souches, puis c'est la grande force de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, une expertise qu'on a développée depuis 40 ans. La première greffe s'est faite en 1980. On a ouvert le laboratoire de thérapie cellulaire en 90. Je l'ai ouvert. Puis après ça, on a fait un centre d'excellence en thérapie cellulaire qui a ouvert ses portes en 2012. C'est le plus grand centre de thérapie de manipulation de cellules au Canada. Encore aujourd'hui, là, bien qu'on l'a ouvert en 2012, on est encore le plus grand, bien que Toronto vient d'ouvrir le sien, puis que Vancouver pense à ouvrir le sien maintenant, alors qu'il voit que c'est en pleine expansion. Ben là, ce laboratoire-là, là où on contrôle la température, l'humidité, le nombre de particules dans l'air, la pression dans les salles pour faire des produits pharmaceutiques, là, on est capable de manipuler des cellules pendant 42 jours pour obtenir exactement le bon type de cellule qui a une activité anti-cancer. Je vous donne un exemple. Alors, vous essayerez de garder des produits dans votre réfrigérateur pendant 42 jours qui se gardent de façon... Puis nous, on les garde à 37 degrés, là, qui est la température du corps humain, la température dans laquelle les bactéries adorent pousser. Alors, malgré tout ça, avec un personnel exceptionnel, on réussit à faire pousser des cellules puis à sauver des vies. On a un projet actuellement où on prend des cellules, qu'on fait pousser des cellules sans cordon ombilical. Vous savez qu'on peut faire des greffes, les gens qui n'ont pas de donneur dans la famille, puis maintenant qu'on a des petites familles, ben c'est plus difficile de trouver un donneur dans les frères et sœurs. Quand il y en avait 10 dans la famille, c'était pas un grand problème, mais là maintenant, ça en est un.
C'est sûr.
Et puis là, prendre des cellules de sang de cordon, ben ce sont des cellules immatures, jeunes, qui tolèrent la greffe. Mais le problème, c'est qu'on en a souvent pas assez. Alors, on est capable de développer, on a développé une technologie grâce à les découvertes d'autres chercheurs, donc Dr. Sauvageau, Dr. Cohen, Dr. Jean-Roy et autres, pour appliquer cette thérapie-là. Puis au centre de thérapie cellulaire, là, on fait pousser ces cellules-là pour en avoir assez pour greffer des adultes. Puis le bon côté, ce qu'on a remarqué, c'est que ça, c'est en train d'améliorer la survie, donc de combattre le cancer, en plus, de façon probablement plus efficace que des cellules ordinaires.
Impressionnant. Dites-moi un mot, vous développez une thérapie également au centre sur la COVID.
Absolument. Alors,
c'est quoi l'approche?
Alors, l'idée, c'est que il y en a même deux qui pourraient être appliqués au COVID. Donc, il y a des patients... La principale complication dans le COVID, c'est d'avoir une réaction immunitaire trop forte. Alors, et cette réaction immunitaire trop forte-là fait que on détruit notre poumon par une réaction inflammatoire qui est mal contrôlée. Mais on a des chercheurs qui travaillent à diminuer l'activité du système immunitaire, donc d'infuser des cellules qui vont bloquer le système immunitaire. Moi-même, dans mon labo, on a une approche comme celle-là. On vient de recruter un autre chercheur qui travaille exactement dans ce domaine. Et puis, on développe aussi, il y a aussi des patients qui, moins nombreux ceux-là, mais que dont le système immunitaire, eux, est pas assez fort. On parle des gens, par exemple, qui ont une greffe, qui ont un cancer, qui ont eu de la chimiothérapie ou qui sont âgés. Et ces patients-là, on développe des cellules anti-COVID. Et donc, on prend des cellules, On introduit un gène à l'intérieur des cellules qui va faire pousser à la surface de cette cellule-là un récepteur qui va faire qu'elle va se lier aux cellules infectées au COVID. Et c'est leur but à ces cellules, c'est de tuer les mauvaises cellules, de tuer les cellules infectées. Donc, on les rend super puissantes. Ça devient des super cellules anti-cancer. Dr. Chris Rudd, qui travaille là-dessus, qui vient de publier un papier pour une nouvelle molécule. Est-ce que ça va se rendre chez le patient? On ne sait pas encore. On y travaille, mais on y travaille très, très, très sérieusement.
Je ne sais pas quoi vous dire à part bravo. Puis merci. Merci à vous, à votre équipe. C'est toujours impressionnant de vous entendre puis de voir que ça se passe chez nous puis que ces développements profitent à la collectivité. C'est remarquable. Merci beaucoup, Dr. Roy.
Bien, je vous remercie beaucoup, M. Arcand.
Dr. Denis-Claude Roy, donc hématologue et qui reconnu pour son expertise dans le domaine des cellules souches puis des traitements cellulaires. Oui.
Ben, je voudrais juste en profiter pour remercier un certain nombre de personnes puis souligner qu'une réalisation comme celle-là, ça s'est réalisé parce qu'il y a beaucoup d'implications. Et puis, il y a des gens comme Bill Brock, des patients qui sont impliqués pour faire avancer la cause, des donateurs comme M. Bouchard, comme M. Herbert Black, le Fonds de recherche en santé du Québec, l'Université de Montréal, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui s'est vraiment très, très impliqué. Et puis, si on a réussi à créer une structure comme celle-là où on a créé un centre de thérapie cellulaire, on a créé un réseau, j'ai créé un réseau canadien de thérapie cellulaire, créer une organisation qui permet de valoriser nos découvertes, puis vous parliez du côté de traiter des patients, donc de les amener en clinique avec l'Amberbus qu'on a développé Citoyer, et puis on développe maintenant une plateforme de thérapie génique. Mais écoutez, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans la contribution de beaucoup de monde, et entre autres du gouvernement du Québec, du Canada, qui nous a cru en nous, puis qui croit encore en nous, puis qui investit.
Avec raison. Merci, Dr. Roy. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On va passer à un autre dossier, celui maintenant de ce procès historique des attentats du 13 novembre à Paris. Vous savez que ce procès, donc, dure depuis longtemps et il y a quelques 330 avocats qui sont parties prenantes. Et on retrouve parmi les avocats une avocate qui origine du Québec, qui a fait des études ici, mais qui pratique maintenant en France, Maître Aurélie Cerceau, qui est avec nous. Maître Cerceau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, dites-nous, qui vous représentez dans le cadre de ce grand procès?
Moi, je représente plusieurs parties civiles, c'est-à-dire les victimes. Je représente des victimes qui étaient aux terrasses. Vous savez, il y a eu les attentats sont déroulés dans trois endroits, le Stade de France, les terrasses, plusieurs terrasses à Paris, puis le Bataclan, qui est une salle de spectacle. Moi, je représente des victimes qui étaient aux terrasses, et puis aussi des victimes qui étaient dans la salle du Bataclan, qui ont survécu. Tous mes clients ont survécu. Ce ne sont pas des familles endeuillées. Ce sont des gens qui étaient sur place et qui ont vécu les attentats et qui s'en sont sortis.
Et dans le cadre de cette représentation, quelle est la nature exacte du travail? Vous interrogez les accusés, vous représentez les intérêts des parties prenantes, mais qu'est-ce que vous faites exactement?
On accompagne nos clients, parce que c'est une douleur qui est toujours très vive, alors que ça fait maintenant plusieurs années. C'est une douleur très vive, donc on les accompagne. Depuis 6 ans, moi, je les accompagne. Quasiment jour après jour, hein, parfois, surtout là pendant le procès. On est là pour leur expliquer ce qui va se passer. On est là pour les porter, même parfois physiquement à bout de bras. Ça, c'est la première chose. Vraiment, la chose la plus importante, c'est d'être là pour eux. Ensuite, c'est au cours du procès, c'est de poser des bonnes questions. Les questions aux enquêteurs, parce qu'il y a plein d'enquêteurs, hein, que ce soit des enquêteurs français, des enquêteurs belges, des services spéciaux, spécialisés. Donc, c'est poser des questions qui vont permettre de comprendre comment ces accusés-là en sont arrivés à se faire exploser dans une salle de spectacle, tuer des gens à bout portant sur des terrasses ou se faire exploser au Stade de France. C'est poser des questions qui vont permettre de comprendre comment ils en sont arrivés là. Est-ce que l'enquête a été bien menée? Est-ce qu'on aurait pu éviter quelque chose? Ça, c'est vraiment aussi le cœur du sujet. Et puis, surtout, c'est est-ce qu'on peut mettre en œuvre, est-ce qu'on peut avoir des moyens pour que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas pour vraiment limiter le risque qu'il y ait à nouveau des attentats de cette ampleur-là?
Vous êtes face à ces accusés. Vous les voyez à chaque jour du procès. Quels sont vos commentaires, réactions quand vous les voyez? Comment ils se comportent durant les procédures?
C'est vrai que dans la salle d'audience, nous, les avocats de partie civile, on est vraiment face à eux. On les voit, ils sont derrière des vitres de l'autre côté, dans le box. Donc, il y a leurs avocats, puis eux, juste derrière. Et puis, on les observe. On a eu 5 semaines entières de témoignages de victimes. Elles sont venues, donc soit c'était des gens qui étaient sur les terrasses, au Stade de France, au Bataclan, puis qui expliquaient ce qu'ils avaient vécu. Ou bien c'était des familles endeuillées qui ont perdu un père, une mère, un frère, une sœur, parfois même plusieurs personnes de leur famille. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, surtout, on les regardait, hein, avec mes confrères, mes consœurs. Et puis, j'ai perçu parfois des larmes. Alors, pas pour tous, vraiment. Mais on avait l'impression qu'ils étaient saisis par l'émotion, parfois. Ce qui m'a marqué, c'est, par exemple, une mère de famille qui s'est retournée vers eux et puis qui disait « Moi, j'ai porté ma fille dans mes bras et j'imagine que vos parents vous ont porté dans vos bras. » Et à ce moment-là, j'ai vraiment perçu chez pas mal d'entre eux quelque chose de fort. Et il y a eu ces moments-là où on avait l'impression, mais après c'est toujours délicat, c'est-à-dire qu'on se demande est-ce que c'est fin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est... Mais j'ai la sensation que pour certains d'entre eux, en tout cas, c'était une vraie émotion et peut-être que ça les a fait réfléchir.
On dit également qu'un des témoignages importants est celui du policier qui est entré dans le Bataclan et qui, de toute évidence, a sauvé plusieurs vies.
Oui, on l'a écouté. Alors, c'était vraiment parmi les premières semaines du procès. C'est un commissaire qu'on appelle de la BAC 75N. Qui est un héros, vraiment. Il y a plein d'héros. Vraiment, c'est ça qui est assez incroyable. Et lui, il entend sur les ondes radio qu'il y a quelque chose qui se passe au Bataclan. Les terrasses ont déjà... Il y a déjà eu des explosions au Stade de France. Il y a déjà eu des fusillades sur les terrasses. Puis, il prend sur lui, c'est-à-dire qu'il n'attend même pas d'avoir l'ordre d'y aller. Il y va avec son chauffeur, qui est son coéquipier. Ils s'arrêtent près du Bataclan. Et là, ils prennent leur courage à deux mains. Ils se disent peut-être qu'on sortira jamais de là. Peut-être, jamais. Mais le courage et l'envie de peut-être réussir à sauver des vies les a poussés à se dépasser. Parce que le commissaire, quand il nous parle à la barre, pendant des heures et des heures, il a les larmes aux yeux. On sent encore la gorge serrée. Hein. Puis on sent que... Quand ils poussent les portes battantes du Bataclan, ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Ils ne savent pas s'il y a un terroriste, deux, trois, ils ne savent pas. Et là, ils entrent, ils se mettent chacun de chaque côté. Le commissaire voit qu'il y a un terroriste sur la scène du Bataclan qui met en joue un jeune homme. Et il suffit quelques secondes, puis le jeune homme, il aurait pu être assassiné aussi. Parce qu'ils avaient déjà assassiné malheureusement des dizaines et des dizaines de personnes à ce moment-là. Il le met en joue et il tire sur ce terroriste-là. Il ne sait pas où sont les autres. Il se trouve que les autres, l'histoire le dira, ils étaient déjà à l'étage du Bataclan, mais il le met à joue puis il les tue. Et cet acte héroïque, a certainement sauvé mais des dizaines et des dizaines de personnes. Parce que vu sa position sur la scène, vu la position des deux autres qui étaient en haut et qui avaient une vue sur la fosse, ça aurait pu être encore bien pire que ce qu'on a déjà vu. Et ça a été un moment où vraiment, on était tous avec lui. On a tous passé les portes du Bataclan. On était tous là, tous. Que ce soit les avocats, des parties civiles, des accusés. Que ce soit la cour, le président, les autres juges, on était avec lui. C'était un moment incroyable. Et on a une chance folle d'avoir eu des gens qui ont eu ce courage incroyable.
Maître Cerceau, après le congé du temps des fêtes, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on devra suivre?
Alors, après les 15 jours, parce que là, on s'arrête 15 jours. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Là, on va entrer dans le cœur du sujet. On a déjà été dans le cœur du sujet, mais là, on va enfin entendre vraiment les accusés. On va entendre les accusés sur ce qu'ils ont fait. Donc, il y a les accusés qui sont partis, hein, qui ont fait des séjours en Syrie, en Irak. Et on va entendre ce qu'ils ont à dire sur qu'ils ont fait pour en arriver là. Est-ce qu'ils ont fourni, il y en a certains qui ont fourni les téléphones, des armes, des fausses pièces d'identité qui ont permis le transit de certains, notamment à Baoud, qui était le meneur hein, de ceux qui ont commis ces attentats, mais qui est mort à la suite de ces attentats. On va les entendre pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait ou pas fait, en tout cas ce qu'ils reconnaissent, ce qu'ils reconnaissent pas, et on va un peu essayer de voir ce qu'ils peuvent reconnaître par rapport aux pièces qu'on a dans le dossier. Donc ça, c'est primordial ce qui va se passer là dans les deux mois à la suite du temps des fêtes. Ça va être primordial parce qu'on va enfin entendre ce qu'ils ont à nous dire sur ce qu'ils ont fait les uns et les autres.
Je crois comprendre que vous allez profiter de cette pause pour venir faire un tour à Montréal.
Oui, je prends l'avion vendredi. Je prie pour qu'il n'y ait pas une mesure qui m'empêche encore de venir. Mais oui, vendredi, j'arrive à Montréal pour fêter, pour passer le temps des fêtes en famille. Là, c'est important.
Je comprends. Merci vraiment d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Très gentil à vous. Très apprécié. Merci.
Merci, M.
Au revoir. Maître Aurélie Cerceau, qui est avocate en France. Elle est née ici, mais elle a fait ses études en grande partie, au Québec. Elle vit en France depuis maintenant plusieurs années et donc représente des victimes du Bataclan.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
On va parler justement de l'impact, parce que ça arrive à un moment où c'est une fin d'année, tout le monde est assez fatigué. Les parents ont eu bien des enjeux avec les enfants, puis c'est la période de Noël, puis là, tu te fais dire, bien, il y a un variant qui s'invite au party, puis qui risque de faire un nombre élevé de cas. Catherine Raymond est avec nous, elle est chercheuse au Centre d'études sur le stress humain du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Madame Raymond, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous l'impression que les gens qui regardent ça, là, qui étaient dans leur salon hier soir, sont devenus un peu plus anxieux, un peu plus en colère, un peu plus en maudit?
Oui, c'est fort possible. On sait que toute l'imprévisibilité qui est associée à la situation en ce moment, ça peut être particulièrement difficile pour le cerveau. Et donc, on va voir certainement certains effets sur le stress au cours du temps des fêtes, autant chez les parents que chez les non-parents.
D'abord, comment je détecte ça, que je suis plus stressé ou que mon conjoint, ma conjointe a l'air plus stressé? C'est quoi les indicateurs?
En général, on a tendance à définir le stress comme étant quelque chose de négatif. Hein? Mais il faut se rappeler que quand on est stressé, c'est notre cerveau et notre corps qui essaient de nous aider à nous adapter à une situation. Et pour ce faire, il va amener ce qu'on appelle la sécrétion d'hormones de stress. Et ça va nous donner plusieurs signes physiques. Fait que, par exemple, on peut avoir des maux de ventre, des frissons, un battement cardiaque qui est accéléré. Et ça peut amener aussi des signes psychologiques, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, des colères spontanées, de l'insomnie, une certaine irritabilité, une humeur qui est plus négative.
OK, mais on est quand même dans un contexte un peu différent, là, pour ne pas dire exceptionnel. C'est une pandémie, ça va faire 2 ans que ça dure avec des hauts, des bas, des périodes de confinement, des périodes où on peut retrouver une certaine normalité. Là, les gens arrivent à un moment où ils sont fatigués de ça. Le premier ministre Legault disait hier, « je suis tanné comme vous ».
Oui, on sent un certain épuisement à l'heure actuelle qui atteint pas nécessairement des niveaux cliniques chez la majorité des gens. Okay? Donc ici, je parle pas d'un épuisement professionnel, mais un certain épuisement du système de stress en ce sens où, à force de s'adapter pour la même situation, le cerveau finit par envoyer un message d'épuisement au niveau du corps parce qu'on a une espèce d'impuissance acquise. On se dit, mon Dieu, mais j'arrête pas de mobiliser cette énergie-là. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Hein? Ou bien je suis pas capable de modifier la situation qui est en cours? Donc, on peut sentir un certain épuisement à l'heure actuelle. Je pense que la meilleure solution dans tout ça, c'est de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler au détriment de ce qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple une pandémie. Hein. On a très peu de contrôle là-dessus, mais on a un contrôle sur ce qu'on peut appliquer dans le temps des fêtes, c'est-à-dire se réunir avec les gens qui sont très proches de nous, donc en suivant les règles établies, bien entendu, et essayer d'adapter un petit peu notre quotidien pour faire face à cette situation-là.
En espérant que ça ne sera pas trop long.
En espérant que ce ne soit pas trop
long. Merci, bonne journée à vous.
Merci.
Catherine Raymond, qui est chercheuse au Centre d'études sur le stress humain. Je dois vous dire que j'ai eu un choc quand j'ai entendu un extrait de l'émission « La soirée est encore jeune » où Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, a dit en quelque sorte que je devenais le porte-parole de ses émotions. J'ai trouvé ça comique parce que, l'équipe ici, quand j'essaie de mettre mon côté humain sur la table, me rabroue et prouve du scepticisme.
On a rien dit.
C'est difficile. Et cette espèce de familiarité qui génère tant de mépris a au moins été compensée par notre invité à qui on va s'adresser dans quelques instants. Mais avant, je vais vous faire entendre l'extrait de cette émission, un premier extrait, puis vous allez voir un peu le ton.
Oui, les cheveux blanchissent. Oui, les lendemains de veille qui durent 3 semaines. Puis oui, quand tu te lèves trop vite, tu vois des points noirs pendant 3 jours. Mais selon moi... Rien, mais absolument rien traduit plus le fait de devenir un adulte que de sentir que Paul Arcan est le porte-parole de tes émotions. Moi, ça, là, ça, c'est mon indice. Surtout quand tu se fâches ça, là, c'est une vraie catharsis. Je veux dire, j'ai jamais vécu une catharsis comme quand Paul Arcan se fâche. Je veux dire, j'ai été pendant 30 ans au théâtre. Il y a peut-être les Istrata avec sa grève du sexe que j'ai fait. Ah ouais, c'est peut-être un peu moi. Mais sinon, là, en entendant Godot, deux gars dans un non-lieu qui attendent l'absurdité de la vie, laisse faire. Écoute Paul Arcan ramasser un incompétent,
bravo.
Ça, tu vas avoir l'impression
bravo.
De vivre.
Nous sommes à Radio-Canada.
Ben, ça semble avoir été apprécié par les gens qui étaient
un là. Instant, un instant, nous avons un deuxième extrait à vous faire entendre.
Mais c'est parce que ce que j'aime, c'est que quand Paul, ça m'arrive souvent de faire comme là, tu vas me ramasser ça, ce monsieur-là. Là, c'est quelqu'un qui n'a aucun rapport à ma vie. Hein. Le directeur de la commission scolaire d'Émile Lille, je suis comme, ah ouais, défonce ça. Parce que, je sais pas, c'est mon rapport à l'existence.
Ouais.
C'est quelqu'un qui... Il y a comme de quoi où... Moi, je suis rendu à un niveau où je fais pas juste espérer, je suggère des sujets à Paul Arcan. Il y a une craque dans le trottoir, quelqu'un va payer pour ça aujourd'hui. Et, en fait, Paul Arcan, j'avoue que c'est un peu ma lueur de vie face à la vieillesse.
Incroyable. Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Êtes-vous toujours employé de Radio-Canada?
De moins en moins. Mais je tiens quand même à dire qu'effectivement, je suis employé de Radio-Canada tout un matin. Je veux juste compenser le fait d'avoir parlé de 98.5 sur les
ondes
de Radio-Canada.
Oui, il n'y a aucun problème.
En parlant de Radio-Canada et... C'est 17 % au dernier sondage à tout un matin. Donc, on a fait une belle progression. Juste que mes patrons m'aiment encore. C'est tout.
On parlera pas de l'écart. On va mettre en lumière le chiffre 17.
Oui, voilà, 17. C'est historique, en fait.
Je pense que oui.
Mais ça a été, j'ai entendu ça souvent cette semaine, historique.
Oui,
donc,
beaucoup de mots aussi.
Et numéro 1. C'est comme toutes les radios étaient numéro 1. Fait que tout le monde est content, finalement.
Mais nous, on a un monument quand même.
Oui, c'est vrai. Ben, je savais pas s'il fallait que j'apporte des fleurs ou de l'encens pour remercier M. Arcan de ses bons et loyaux services.
OK. Comment vous êtes arrivé à ce numéro-là? Pourquoi vous avez pensé à ça? Moi, j'en revenais pas. C'est très drôle. J'ai vraiment.
Ben, merci. C'est vraiment un constat que j'ai fait où un matin, mais je vais le dire comme c'est, vous avez vraiment ramassé un monsieur qui s'occupait des ponts. Pis ça m'a vraiment fait du bien. Puis je pense que. Puis non, mais sincèrement, ça a vraiment amélioré ma journée, puis j'allais faire du yoga après. Puis
il y en a que ça, c'est l'effet contraire.
Ben, je comprends, mais c'est sûr que parce que j'ai reçu le petit message texte de votre recherchiste samedi soir, puis c'était un samedi un peu vin, plus vin que fromage. Puis j'ai ressenti la panique de quelqu'un qui reçoit un appel de votre équipe.
Ça va être à mon tour, là.
Ouais, c'est ça, j'ai fait et là, j'ai eu la pulsion, la peur, la fuite, changer de pays, partir un stand de papaye au Nicaragua, quelque chose. Et finalement, non, mais ça s'est passé positivement. Mais ce qui, ouais, c'est vraiment, j'ai réalisé que quand j'étais ado, parce que j'écoutais à l'époque C'est cassé au collège, ben j'ai pas eu d'enfance, fait que comme j'écoutais C'est cassé à 13 ans, puis je comprenais moins les enjeux dont vous parliez qu'aujourd'hui, là, je suis comme, oui, vas-y, là, défonce-moi ça. Pis c'est vraiment ça que je pense souvent. Parce que, mettons, l'affaire des CHSLD, de la nourriture en carton, là, qui flotte, mais tu te dis, premièrement, c'est inadmissible, puis deuxièmement, pourquoi c'est pas personne. Personne n'est imputable. Personne n'existe. Ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. Il y a quelqu'un qui fait subir ça aux gens. Ben, pourquoi il mérite de se faire engueuler, cette personne-là, c'est tout. Moi, quand j'étais petit puis que je ramassais pas mes affaires ou que je servais un mauvais service aux invités à la maison, ma mère m'engueulait, hein. Puis je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Fait que c'est correct de se faire engueuler une fois de temps en temps quand t'as fait une gaffe. Et c'est ça, je pense, au nom de toute la population québécoise, je tiens à vous dire merci de faire ça pour nous.
C'est incroyable. toujours en plein Radio-Canada. Est-ce que quelqu'un peut appeler pour vérifier?
Si sa carte magnétique fonctionne encore. Ouais,
je veux... Mais en plus, Radio-Canada me laisse dire ce que je veux souvent. Tu sais ça, je les remercie beaucoup. Ils comprennent mon humour, ils m'encouragent, puis ils me laissent dire ce que je veux. Fait que là, je suis en train de dire que finalement, j'ai le droit de dire ça. J'ai pris le droit de dire ça. Puis, mais ils sont très sympathiques. Puis, mais c'est vrai que tu sais, c'est une autre ambiance. C'est deux salles, deux ambiances, Radio-Canada 98.5.
Oui.
Quand même. Et des fois, le matin, je fais le plus tout un matin. Puis quand je m'informe, parce que je suis chroniqueur là-bas pour l'actualité, fait que j'ai besoin d'informer partout, forcément, je vous écoute. Puis, c'est ça. Là, on est dans l'autre ambiance.
Ben, c'est très gentil d'être venu.
Merci de l'invitation. C'est vraiment gentil. Je me sens comme devant un douanier un petit peu en ce moment.
Peter McLeod m'avait dit la même chose à la télé. Ouais? Il m'avait dit, j'ai l'impression... En fait, de passer aux douanes, d'être devant le douanier. J'ai rien fait de croche, j'ai rien dans mes valises, mais je me sens mal.
Ah oui, c'est exactement ça. Là. Je comprends Peter à 100%. C'est un premier point en commande, Peter et moi.
C'est 23.